territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La gauche, historiquement en France, était composée de deux mouvements essentiellement. Un mouvement ouvrier, plutôt communiste et révolutionnaire, remettant en cause le capitalisme, et une gauche plus modérée, social-démocratie, représentative des classes moyennes qui se sentaient solidaires des gens les plus exploités. C'est ça qu'on a appelé la gauche. C'était ça la gauche. Ça n'existe plus depuis 20-30 ans. Cette gauche modérée a abandonné le terrain du social pour adopter le sociétal et ne se soucie pas du social, ou ne se soucie pas de l'alliance avec les gens les plus défavorisés. Cette rupture, c'est ça qui est dramatique.
Comprendre la politique française, c'est comprendre que le Parti Socialiste n'est pas un parti de gauche, puisqu'il mène des politiques de droite quand il est au pouvoir. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue à vous dans cette spéciale Monde Diplomatique avec les copains profs d'Histoire Géo. Salut Daniel.
Bonjour à tous.
Salut Philippe.
Bonjour.
Et Cédric, qui a choisi un article du Diplo dédié à l'échec des supposés écologistes élus à Grenoble et dans d'autres grandes villes de France. Salut Cédric.
Salut.
Et dans quelques instants, André évoquera la faillite des institutions de la Ve République née en 1958 avec le coup d'État de De Gaulle. On ne s'étonnera pas qu'un régime apparu dans un putsch fonctionne si mal. André parlera aussi de cet article du Diplo consacré à la dictature de soi-disant sondages frelatés, ce qui rappelle ce morceau des Fabulous Troubadours qui, en 1995, se demandait si c'était Chirac ou Balladur qui deviendrait président. Alors, les plus vieux d'entre vous se souviendront, hein, c'était l'époque des amis de 30 ans où quasiment toute sa droite avait trahi Chirac pour rejoindre Balladur, dont un certain Sarkozy. Et en 95, des semaines avant le scrutin, pour les médias dominants abreuvés de sondages bidons, il ne faisait absolument aucun doute pour les sondeurs que Balladur serait élu haut la main.
Qui aura l'autre à l'usure? Je me perds en conjecture. Ce sont tous les deux des durs. Chirac est au pied du mur, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
De l'or ben des pédakis.
De l'or ben des pédakis.
Que bouillon mangea Chirac.
Que bouillon mangea Chirac.
De l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Giscard ben des pédakis.
Giscard ben des pédakis.
Que bouillon mangea de l'or.
Que bouillon mangea de l'or.
Giscard de l'or Chirac. De l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Pasqua ben des pédakis.
Pasqua ben des pédakis.
Que bouillon mangea Giscard.
Que bouillon mangea Giscard.
Pasqua Giscard, Giscard de l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
C'est qu'un ben des pédakis.
C'est qu'un ben des pédakis.
Que bouillon mangea Pasqua.
Que bouillon mangea Pasqua.
C'est qu'un Pasqua, Pasqua Giscard, Giscard de l'or Chirac, de l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Barre ben des pédakis.
Barre ben des pédakis.
Que bouillon mangea Seguin.
Que bouillon mangea Seguin.
Barre Seguin, Seguin, Pasqua, Pasqua, Giscard, Giscard de l'or. De l'or, Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Tapis ben des pédakis.
Tapis ben des pédakis.
Que bouillon mangea Loubar.
Que bouillon mangea Loubar.
Tapis à Barbara, Séguin, Séguin, Pasqua, Pasqua, Giscard, Giscard de l'or, Chirac, de l'or, Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Fabius ben des pédakis.
Fabius ben des pédakis.
Que bouillon mangea Tapis.
Que bouillon mangea Tapis.
Fabius tapis, tapis à Barbara, Séguin, Séguin, Pasqua, Pasqua, Giscard, Giscard de l'or, Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Oblige ben des pédakis.
Oblige ben des pédakis.
Que bouillon mangea Fabius.
Que bouillon mangea Fabius.
Oblige Fabius, Fabius tapis tapis. À barre, barre, Séguin, Séguin. Pasqua, Pasqua, Giscard, Giscard de l'or Chirac, de l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
De Villiers ben des pédakis.
De Villiers ben des pédakis.
Que bouillon mangea Aubry.
Que bouillon mangea Aubry.
Villiers Aubry, Aubry, Fabius, Fabius tapis tapis. À Barbara, Séguin, Séguin. Pasqua, Pasqua, Giscard, Giscard de l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Léo t'amène les pédakis.
Léo t'amène les pédakis.
Guigou j'ospice le loukami.
Guigou j'ospice le loukami.
Westernazé jambé couche-nous.
Westernazé jambé couche-nous.
Longue langue et bodice d'arrêt.
Longue langue et bodice d'arrêt.
Royal de peine la londense.
Royal de peine la londense.
Et l'oumai tarbakiroka.
Et l'oumai tarbakiroka. Rocard.
Rocard, talent de la langue de Le Pen royal, royal, Baudis, Baudis, Alain, la Jacques, Longue, Longue, Couchevert, 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 Jospin, Jospin, Guigou, Guilibou, Léotard,
Léotard, Villiers, Villiers, Aubry, Aubry, Fabius, Fabius, Tapi, Tapi, Abarabara,
Séguin, Séguin, Passepoix, Passepoix, Giscard, Giscard, de l'ordre de l'or, Chirac, Chirac, Émur, mais pas la dure, semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur? Ensemble, on se le demande, vraiment, ça nous intéresse. On pense qu'à ça.
Quel sera notre futur?
Va t'en te balader.
Dur.
Dans le numéro de décembre 2021 du Monde diplomatique, qui choisit vraiment les candidats à l'élection présidentielle ? L'investiture par la grâce des sondages. Un article d'Alain Garrigou, professeur émérite de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre et auteur notamment de l'ouvrage « Le vote et la vertu. Comment les Français sont devenus électeurs ». Filtrés par la procédure des parrainages d'élus locaux, les déclarations de candidature se multiplient à l'approche de l'élection présidentielle de 2022. Mais, hier, apanage des partis, le processus de sélection des prétendants est troublé depuis une quinzaine d'années par l'omniprésence des sondages sur les intentions de vote que certains placent au cœur de leur stratégie. André, je suis assez vieux pour me souvenir de la campagne de 95. Je me souviens 6 mois avant l'élection, c'était Balladur, ça ne faisait absolument aucun doute pour les commentateurs politiques. Quand Balladur sera président, c'était la période des amis de 30 ans, de la remontée fulgurante de Chirac. Donc déjà, quand j'entends sondage et élection présidentielle, je me souviens de cette époque.
Oui, oui, non, mais de toute façon, on constate quand même une usure de la crédibilité des sondages, de la confiance des gens dans les sondages. Mais enfin, il reste quand même extrêmement important dans les élections présidentielles en France actuellement. L'auteur de l'article ne s'en cache pas, hein, il trouve que c'est assez monstrueux, cette irruption du sondage dans le choix des candidats et dans l'orientation et dans la manipulation de l'opinion publique, etc. Ces dernières phrases dans l'article, certes, les mécanismes partisans, c'est-à-dire des partis politiques, n'étaient pas si désintéressés ni si transparents, mais la sélection du personnel démocratique par des sondages à bas coût et rémunérés, permettant aux mêmes personnes de livrer leurs intentions de vote, entre guillemets, de s'exprimer plusieurs fois selon des calculs plus ou moins clairs, avec des méthodes de fabrication secrètes et juridiquement protégées par le secret industriel, valent-elles mieux ? Bien sûr, la réponse est non. C'est assez scandaleux, quoi. En quelque sorte, on livre les choix de l'opinion publique à des procédés commerciaux, financiers, etc. Et l'élection présidentielle, qui est déjà une grosse merde farcesque, est tout à fait affectée par l'irruption des sondages. Moi, je voudrais profiter de cet article pour réfléchir un petit peu sur l'élection présidentielle en elle-même et les mécanismes de fonctionnement de la Ve République. Bon, on va faire un petit historique de l'élection présidentielle. La première fois qu'on en parle, c'est en 1848, lors de la Deuxième République, la Seconde République qui succède à la monarchie de Juillet, après la Révolution de 1848. À ces élections, on décide de faire l'élection du président de la République au suffrage universel. Bon, à l'époque, c'était le suffrage des hommes de plus de 25 ans. Bon, mais cependant, suffrage universel quand même. Et vous savez qu'à ces élections, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui va être élu, profitant de l'énorme notoriété qu'il avait grâce à son tonton. Hein. Cet homme qui est un véritable aventurier de la politique. Hein. Bon, il va être élu avec 5 434 000 voix. Nous savons qu'en décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte va faire un coup d'État, un véritable coup d'État. Il va prendre le pouvoir et transformer la République en un second empire, en passant par une petite phase de prince-président, etc., élu à vie, puis ensuite après devenir empereur des Français. Et donc, coup d'État. Enfin, songeons quand même que cet homme populaire, élu au suffrage universel, devient dictateur, quand même, malgré tout. Mais c'est avec De Gaulle que l'élection présidentielle nous intéresse, nous. Hein. C'était également un aventurier, De Gaulle. La façon dont il prend le pouvoir, par un coup d'État soft, hein, en 58, il provoque un désordre et puis prend le pouvoir. Il se présente comme un sauveteur de la situation. Alors, c'est lui qui crée la crise, mais il se présente comme celui qui va sortir de la crise, une sorte d'homme providentiel. Hein, une solution à une crise politique qu'il a lui-même contribué à créer avec ses copains, ses réseaux, etc.
Ces histoires, André, tu nous les as déjà racontées avec les copains. Allez sur notre site polemix et la voix off.com. Hein, vous pouvez taper commune, comme Commune de Paris, suite à la série de 5 émissions qu'on a fait pour développer cette histoire, où on raconte effectivement l'odyssée non seulement de Napoléon III, mais aussi de la Commune de Paris. Et puis, tapez aussi dans le moteur de recherche de polemixetlavoif.com 1958. Et là, vous aurez tout le détail de l'opération Résurrection qui permettra à De Gaulle, bon, comme on dit un peu rapidement, d'arriver au pouvoir sur les épaules des parachutistes sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Histoire donc amplement développée et à retrouver sur notre site.
Ce peut être le début d'une espèce de résurrection. 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 Résurrection.
Revenons sur la façon dont il est porté au pouvoir. Parce que comment ça se passe? Il faut d'abord que le président de la République, de la 4e République, René Coty, fasse appel à lui pour être président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement. Il est appelé par le président de la République, René Coty, c'est un homme de droite, hein, et ensuite après, il faut qu'il ait l'investiture du Parlement de la 4e République. Et c'est ce qui va se passer, il va être investi, c'est-à-dire qu'il va avoir la majorité, grâce très largement, bien sûr à la droite, mais aussi au Parti Socialiste et ses filiaux. Donc, une fois Premier ministre, président du Conseil, on disait à l'époque, ensuite après, il va d'abord avoir les pleins pouvoirs le 1er juin, et ce qui va lui permettre de modifier la Constitution, et puis il lui faut être élu.
Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales?
Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde à tenter? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Je commence une carrière de dictateur. Je commence une carrière de dictateur.
Alors la première élection présidentielle, elle n'est pas au suffrage universel. La première élection de De Gaulle, en 1958, elle est faite par un collège de grands électeurs, en quelque sorte, de 10 000 personnes à peu près, députés, sénateurs, conseillers généraux, etc., etc., maires, Andeville, etc. Et là, il devient donc président de la République et il va changer de constitution. Et c'est très important parce que dans la nouvelle constitution, les pouvoirs du président de la République sont tout à fait considérables, mais il lui faut quand même l'assentiment d'une assemblée. Et il va modifier le mode d'élection des députés, c'est quand même extrêmement important ça, parce qu'on parle beaucoup de l'élection présidentielle, mais y a-t-il des limites au pouvoir présidentiel du président de la Ve République? Oui, c'est le Parlement, la Chambre des députés. Mais comment De Gaulle va-t-il contourner cet obstacle? Eh bien, il va modifier considérablement le mode d'élection des députés, de façon à diminuer le nombre de députés communistes en particulier, hein, l'opposition, disons, à l'époque principale à sa prise de pouvoir, et de façon à avoir une majorité à sa botte. C'est ce qu'il va avoir, les élections du premier Parlement, la première Chambre des députés de 1958. C'est une chambre de députés dévouée à De Gaulle qui va voter absolument tout les projets de loi du gouvernement de Gaulle. Hein, c'est une chambre de godillot, en quelque sorte. Hein. Alors, je rappelle d'où vient le mot godillot. C'est un député de l'UNR, le parti de Gaulle, qui va, dans un discours, dire « Mon général, nous sommes vos godillots, marchez hein. !» Les godillots, ce sont les chaussures militaires, le nom des chaussures militaires. Alors depuis, évidemment, on a stigmatisé les députés gaullistes qui votent tout, absolument tout, sans critique, tout ce que voulait De Gaulle, en quelque sorte. Ce n'est qu'en 62 qu'une réforme de la Constitution votée par un plébiscite institue l'élection du président au suffrage universel. À l'époque, il suffisait d'un parrainage de 50 personnes. Mais il n'y a pas eu 36 candidats, hein. Il n'y en a pas eu énormément.
André, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un bibicite?
Alors, oui, un mot sur le mot plébiscite, le mot bibicite.
Je crois que c'est un mot latin qui veut dire oui.
Oui, c'était une blague au moment de Napoléon III, effectivement, qui a beaucoup utilisé le plébiscite. Hein. C'est un paysan qui demande au maire ou au notable local, « Monsieur le maire, qu'est-ce que c'est qu'un bibicite ?» Et le maire dit « C'est un mot latin qui veut dire oui. » Bon, en fait, le plébiscite avait mauvaise presse, c'est-à-dire qu'il a été utilisé, très largement utilisé par Napoléon III, entre autres, par Napoléon Ier, puis ensuite après par Napoléon III, pour faire passer des mesures, etc., avec une sorte d'assentiment populaire, en quelque sorte. On faisait appel à la plèbe, c'est-à-dire au peuple, pour voter des décrets favorables au gouvernement. Alors, comme le mot avait une connotation extrêmement péjorative, on l'a remplacé par référendum. En réalité, dans la pratique de Gaulle, c'était exactement comme un plébiscite, parce qu'en même temps qu'il posait une question du genre « Voulez-vous la paix en Algérie ?», c'était « Voulez-vous de Gaulle au pouvoir ?», en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il demandait l'avis des citoyens, et en même temps, c'était un plébiscite pour lui, pour son pouvoir, en quelque sorte. Bon, enfin, maintenant, ça s'appelle référendum. Et quelle était la philosophie de Gaulle concernant le pouvoir présidentiel et concernant la République, en quelque sorte ? Eh bien, la République, elle était gouvernée par un homme providentiel, un sauveteur de la nation, en quelque sorte, hein, et qui s'arrogeait tous les pouvoirs.
La cinquième, c'est un régime de monarque présidentiel.
Tout à fait.
De président monarque.
Absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie séparation entre les pouvoirs exécutifs, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire. Quoique en France, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Mais enfin, disons, la chose judiciaire. C'est-à-dire que tout est entre les mains du président de la République. C'est une sorte de monarchie tempérée uniquement tous les 7 ans. Par une élection, puisque à l'époque c'était 7 ans le mandat présidentiel. Hein. Bien sûr, dans l'esprit de De Gaulle, il fallait qu'il y ait un attachement, un lien du peuple à l'égard de ce chef. Et dès que cette sorte de confiance avait disparu, le chef devait s'effacer. Ainsi, De Gaulle, très conforme à cette conception, il a démissionné en 69 lorsque le référendum de 69. De Gaulle avait fait après mai 68, après le grand mouvement de mai 68, il a essayé de faire confirmer en quelque sorte son pouvoir par le peuple, et il a fait un référendum concernant une réforme régionale et une suppression du Sénat, etc. Et là, toute une partie de la droite lui est tombée dessus et a ajouté sa voix à l'opposition de gauche, et il a été mis en minorité.
En fait, ce référendum de 69 porte sur une question tout à fait annexe. La vraie question que De Gaulle pose à la nation, c'est « Voulez-vous que je m'en aille ou que je reste ?» Et les gens vont dire « Va-t'en !» Et il va s'en aller. C'est remarquable. Alors, on peut en vouloir beaucoup à De Gaulle sur plein de trucs, mais enfin, ça continue à forcer mon admiration quand même, hein, quand on pense à tous ceux qui ont défilé depuis sur le trône de France et qui s'accrochent comme des vieilles moules pourries aux rochers contre vents et marées et contre sondage.
Oui, c'est vrai, ça c'est... Au moins, rendons hommage à De Gaulle, ça a de l'allure et c'est digne, c'est honnête. Je suis le chef, personne ne le conteste, mais sauf le peuple s'il me retire sa confiance en quelque sorte. Donc il y a quelque chose là-dedans d'extrêmement respectable. Sauf que ça reste un pouvoir personnel et qu'une fois De Gaulle parti, ce pouvoir se perpétue, reste. C'est-à-dire que la Constitution, nous sommes encore à peu près dans les mêmes termes, la Constitution, je dirais même pire encore aujourd'hui. Dans le même type de fonctionnement de la Ve République, qui est un système de pouvoir personnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler dans ces cas-là de démocratie, ni même de système parlementaire, etc. Parce que si nous comparons, par exemple, le pouvoir du président et le pouvoir du Parlement, sous la Ve République, le président de la République est chef de l'État, mais il n'est pas chef du gouvernement. Il y a un chef du gouvernement, c'est le président du Conseil, le Premier ministre, comme on dit aujourd'hui. Mais et le président, lui, il est bien sûr garant de la sûreté de l'État, chef des armées, garant de l'intégrité du territoire national, des trucs comme ça. Mais il n'est pas chef du gouvernement. Le gouvernement, c'est le président du Conseil. Et le président du Conseil est nommé, investi par le Parlement et sous contrôle du Parlement en permanence, ainsi que ses ministres. Ce qu'on voit aujourd'hui aurait été impensable sous la Quatrième République, c'est-à-dire un Premier ministre morigénant les députés, leur donnant des notes, des mauvaises notes, des bonnes notes, etc. Alors qu'à l'époque, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le Parlement et les groupes parlementaires convoquent le président du Conseil ou ses ministres individuellement ou en groupe quand ils veulent, au moment où ils veulent. Ils sont maîtres de l'ordre du jour, de ce qui sera discuté, de leur calendrier, des sujets qui seront mis à l'ordre du jour du Parlement. C'est-à-dire que les députés sont les vrais représentants du peuple et c'est eux qui font la loi et qui en surveillent l'exécution, c'est-à-dire qui en surveillent les exécuteurs, les ministres.
La mythologie historique officielle nous a appris que la 4ème République, c'était vraiment pas bien parce que c'était instable. Et la 5ème, qu'est-ce que c'est bien parce qu'avec ce monarque président, c'est la stabilité. Qu'est-ce qu'on lui reproche finalement à cette 4ème République ? Elle était peut-être instable, mais elle était peut-être aussi trop démocratique.
C'est-à-dire que le caractère démocratique, tout à fait parlementaire et démocratique de la 4ème République, s'est retourné contre elle parce qu'elle a subi des crises, essentiellement la guerre froide et les guerres coloniales, et les divisions profondes du pays à cet égard, et la difficulté d'obtenir des majorités gouvernementales. C'est les difficultés de la démocratie, en quelque sorte. Alors, De Gaulle a réglé le problème, il a retiré le pouvoir réellement au Parlement, et a transformé ça en monarchie élective, avec une suggestion du Parlement par l'exécutif. Bon, est-ce mieux ? On voit aujourd'hui que c'est le bordel intégral, et en tout cas, c'est pas la démocratie. Alors, bien sûr, l'histoire officielle a repris les arguments de De Gaulle sur le gouvernement des partis et trucs comme ça. Mais bien sûr qu'il y avait des magouilles de partis sous la 4ème. Est-ce qu'il n'y en a pas aujourd'hui d'abord de magouilles de partis ? Alors là, ce serait difficile à soutenir. Bon, mais ces magouilles de partis étaient dues au fait qu'il était extrêmement difficile d'obtenir une majorité. Mais revenons à ce qui se passe aujourd'hui. L'extrême importance du président de la République dans nos institutions, c'est-à-dire son rôle essentiel, principal, entraîne une personnalisation et l'investiture grâce au sondage, la manipulation par les grands moyens d'information, etc., et la mise sous tutelle des élections présidentielles par la finance, par le pognon, par le fric. Beaucoup de gens sont conscients. 50% d'abstention dans des élections aussi déterminantes pour la République devrait quand même un peu interroger sur la validité de nos institutions. On a des institutions qui ne sont pas acceptées par plus de la moitié des citoyens, pensent qu'il y a des magouilles, etc., et que tout ceci ne sert pas à grand-chose, et qu'ils sont tous pourris. Ça fait le jeu de l'extrême droite. J'ai pas besoin de vous dire qu'évidemment, une des conséquences, c'est pas la seule, mais une des conséquences, c'est qu'évidemment, les adeptes du tous pourris, on sait ce qu'ils font, ou ils s'abstiennent, ou ils votent à l'extrême droite, évidemment.
Du coup, on a mal au fondement, et ça s'appelle des hémorroïdes.
Exactement. Mais d'un autre côté, on ne peut pas déplorer les conséquences d'une chose qu'on approuve. Citant Bossuet, Dieu se rit, des imbéciles, qui... Je te cite Daniel dans le texte.
Dieu se rit des imbéciles ?
Non, il est beaucoup plus poli. Je crois que selon Bossuet, il aurait dit « Dieu se rit de ceux qui déplorent les conséquences des causes qu'ils adorent ». Mais enfin, c'est Bossuet qui parle.
Une manière élégante de dire « bien fait pour vos gueules ».
Allez, on ne va pas être si méchant que ça, parce qu'à la limite, des responsables, il y en a un paquet.
Philippe.
André parlait de magouille et je me souviens d'un mot qu'on prêtait au Front National. On disait magouille à gauche, magouille à droite, Le Pen hisse la France au-dessus des partis.
La suite de cette spéciale Monde Diplomatique, c'est avec Cédric. Et cet article du Diplo autour de l'échec des écolos élus à Grenoble. Situation grenobloise qui illustre les problèmes et dilemmes des municipalités de grandes villes dont les écolos ont pu prendre la mairie. Si comme Yannick Jadot, on estime que l'écologie est tout à fait compatible avec l'économie de marché, on n'est plus dans l'écologie. Et l'écologie ne peut être qu'anticapitaliste. On en reparle juste après les Charlots.
Derrière chez moi, savez-vous quoi qu'il y a ?
Derrière chez moi, savez-vous quoi qu'il y a ?
Il y a un bois, le plus joli des bois.
Petit bois derrière chez moi, et tralala dans l'air, tralala dans l'air, et tralala dans l'air, tralala.
Et dans ce bois, savez-vous quoi qu'il y a ?
Et dans ce bois, savez-vous quoi qu'il y a ?
Il y a une godasse, la plus jolie des godasses,
la godasse dans le bois, petit bois derrière chez moi, et tralala dans l'air, tralala dans l'air, et tralala dans l'air, tralala.
Dans cette godasse, savez-vous quoi qu'il y a ?
Dans cette godasse, savez-vous quoi qu'il y a ?
Il y a un pneu, le plus joli des pneus,
le pneu dans la godasse, la
la godasse dans le bois. Petit bois derrière chez moi. Et tralala, l'air, tralala, lola.
Dans ce pneu, savez-vous quoi qu'il y a?
Dans ce pneu, savez-vous quoi qu'il y a?
Il y a un almanach, le plus joli des almanachs.
Un almanach dans le pneu dans la godasse dans le bois. Petit bois derrière chez moi. Et tralala, l'air, tralala, lola.
Il y a tout ça derrière chez moi.
C'est pas possible.
Dans l'almanach, savez-vous quoi qu'il y a?
Dans l'almanach, savez-vous quoi qu'il y a?
Il y a un sparadrap, le plus joli des sparadraps.
Sparadrap dans l'almanach, un almanach dans le pneu dans la godasse dans le bois. Petit bois derrière chez moi. Et tralala, lola, et tralala, lola, et tralala dans l'air, tralala.
Dans le sparadrap, savez-vous quoi qu'il y a?
Dans le sparadrap, savez-vous quoi qu'il y a?
Il y a un sac à main, le plus joli des sacs à main.
Sac à main dans sparadrap dans l'almanach. Un almanach dans le pneu dans la godasse dans le bois. Petit bois derrière chez moi. C'est un dépôt d'ordure qu'il y a derrière chez toi. C'est vraiment trop dur, dur, restons pas là. C'est un dépôt d'ordure qu'il y a derrière chez toi. C'est vraiment trop dur, dur, restons pas là.
Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Deux kilomètres à pied, ça use, ça use. Deux kilomètres à pied, ça use les souliers. Trois kilomètres à pied.
Dans Le Monde diplomatique, édition décembre 2021, et dans le cadre d'un dossier « Les écologistes à l'épreuve du pouvoir », tu as choisi cet article intitulé « Grenoble, ville test », signé du journaliste Philippe Descamps. Premier vert élu à la tête d'une grande ville française en 2014, Monsieur Éric Piolle incarnait l'espoir d'un changement d'approche politique. Mais dans un contexte de réduction des dotations de l'État et de transfert des compétences à la métropole, nombre des promesses écologistes sur l'environnement, la démocratie et la solidarité se sont envolées.
L'article commence comme un reportage à Grenoble à la rencontre donc d'Éric Piolle, qui a été élu en 2014, puis réélu en 2020, en se plaçant donc à la tête d'une large alliance regroupant des partis de gauche, mais aussi des associations qui lui ont permis d'élargir son champ d'attraction au-delà des structures politiques classiques. Sa réélection a été largement assurée. Ça lui a permis notamment d'avoir un périmètre d'action beaucoup plus large que ce qu'il avait eu en 2014. Alors sur quoi a-t-il été réélu? D'abord sur un bilan avec un certain nombre de réalisations. Par exemple, l'aménagement urbain avec une place moindre pour la voiture et notamment des aménagements pour les vélos qui ont changé un petit peu le visage de Grenoble où on voit une recrudescence d'usage de transports alternatifs à la voiture, notamment les trottinettes, les vélos et même la marche à pied. Un certain nombre de calculs ont été faits, de tests qui ont montré qu'effectivement les Grenoblois changeaient leur mobilité. Deuxième élément, c'est la mise en place d'une société mixte d'énergie pour pulser et augmenter l'utilisation des énergies renouvelables qui fonctionne plutôt bien. On peut rajouter aussi à des points positifs qui expliquent sa réélection des politiques de tarification de l'eau sous conditions de ressources qui a permis de donner de l'eau à moindre coût pour les personnes les plus modestes. Enfin, un ambitieux programme de rénovation et de réhabilitation des écoles et des quartiers populaires soumis à l'avis de la population et qui a aussi produit un certain nombre d'effets positifs. Ce bilan, qui semble à première vue extrêmement favorable à M. Piolle, lui a valu d'être salué par la Commission européenne. Grenoble a été nommé ambassadeur des villes vertes. Alors déjà, là, il y a un problème, parce que quand vous êtes salué par la Commission européenne, généralement, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, allez, on ne va pas être médisant. La victoire de M. Piolle aussi peut s'expliquer par une dynamique européenne. En bas de l'article, il y a une carte représentant les 97 métropoles de plus de 500 000 habitants en Europe, et sur ces 97 métropoles, on voit qu'il y en a 67 où les écologistes siègent au sein des majorités municipales. Et parmi ces 67 mairies dans lesquelles les écologistes siègent en tant que majorité, 16 maires sont déclarés comme écologistes. La plupart du temps, ils siègent avec des gens issus du centre-gauche, alors dans toute sa variété européenne, mais aussi, on peut repérer notamment en Europe centrale, notamment en Pologne, mais aussi en Suède, qu'ils peuvent gouverner avec des gens de droite. Tout cela pourrait paraître comme un portrait un peu idyllique, voilà, et de la grande réussite des écologistes, comme l'ont été les 13% de M. Jadot aux élections européennes, un triomphe hein, absolument incroyable, avec plus de 60% d'abstention. Cependant, le ciel s'est un peu ennuagé pour notre ami Éric Piolle. Effectivement, depuis sa réélection, ça va plutôt moins bien, pour pas dire mal. Premier élément, ça a été un échec personnel, puisqu'il est arrivé quatrième aux primaires écologistes. Alors, pour arriver quatrième, ça suppose que vous avez été battu par Delphine Bateau et des gens aussi charismatiques que Yannick Jadot et aussi grand intellectuel que Sandrine Rousseau. Donc, ça veut dire que quand vous vous faites battre par ce genre de personnes, c'est quand même que vous devez être pas très bon, voire franchement mauvais. Deuxième élément, Monsieur Piolle a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour attribution sans mise en concurrence de festivités où il a accordé plus de 200 000 euros de subventions, j'ai plus la somme exacte, à des compagnies théâtrales pour des animations de rue sans mise en concurrence et donc en ne respectant pas les principes des marchés publics. L'affaire est en jugement, donc ça ne présage en rien de son éventuelle culpabilité. Troisième élément, il a subi un échec hein, dans la prise de contrôle de la métropole. Suite à un imbroglio, il a été battu par l'un de ses amis écologistes. Enfin, ils se sont rabibochés depuis, mais l'autre a été soutenu par la droite. Enfin, on voit bien là que les écologistes n'ont pas une culture de pouvoir et qu'ils maîtrisent mal toutes les petites ficelles qui permettent véritablement de prendre le contrôle des administrations et des pôles politiques. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que dominer une mairie, c'est important? Bien sûr, oui, le maire a des marges de manœuvre intéressantes. Il dispose d'un budget, d'une équipe municipale. Mais beaucoup de choses se jouent au niveau de la métropole et non plus au niveau des mairies. Et on s'aperçoit que souvent, même si les écologistes dominent les villes-centres, les périphéries, qui composent aussi la métropole, sont plutôt dominées par des maires de droite qui finissent in fine par prendre le contrôle réel du pouvoir exécutif local. Autre élément, et beaucoup plus grave pour M. Piolle, au-delà de ses revers électoraux, c'est qu'un certain nombre d'associations environnementales locales s'interrogent sur les bienfaits de sa politique. D'abord, le nouveau PLU a conduit à l'artificialisation de nouveaux terrains, ce qui peut apparaître en contradiction avec la dimension historique des verts visant à avoir plus de nature au sein, notamment des villes.
PLU, plan local d'urbanisme.
Plan local d'urbanisme qui fixe les zones constructibles, les zones non constructibles, les réglementations sur la hauteur des bâtiments et ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de contestations sur les choix qui ont été faits par M. Piolle et il s'est largement assis sur les dénonciations de ces associations environnementales et il n'en a fait qu'à sa tête. On verra en conclusion de l'article, il y a quelques phrases cinglantes de ses opposants. Deuxième élément, il a accepté l'élargissement de l'autoroute A480, financée par la société AREA, concessionnaire du réseau autoroutier alpin. Cela apparaît en contradiction directe avec les combats passés, vent debout, quand il était jeune militant écologiste, pas d'autoroute dans la ville, parce que, voilà, si on ne connaît pas la géographie de Grenoble, l'A480 passe dans la ville. Et là, on l'élargit. Pour se défendre, M. Piolle dit qu'il a négocié des aménagements pour la qualité de vie des riverains, des murs anti-bruit, des limitations de vitesse, des plantations d'arbres. Mais in fine, l'autoroute a été élargie et donc les intérêts capitalistiques d'une grande société l'ont emporté. À côté de ça, les associations environnementales disent que bah, y a pas de grand projet de tramway. C'est à peine si la ligne existante d'avant, M. Piolle a été un petit peu allongé dans les deux sens, mais il n'y a pas d'autres projets d'équipement massif en transport en commun. L'ambition vélo, là aussi, est remise en cause par un certain nombre d'activistes environnementalistes, puisque, constatant que le site de Grenoble est particulièrement favorable, en fait, c'est un fond de cuvette glaciaire, donc c'est très plat, et ils disent quoi? C'est que les nouveaux aménagements faits par les vélos relève plus d'une logique de communication en disant « nous avons construit X kilomètres de voies cyclables, etc. » Sauf que ça ne se double pas d'un véritable maillage cohérent permettant véritablement une circulation sécurisée. On est toujours avec des bandes cyclables plus que de véritables pistes pareil, on appelle les bandes de la mort, hein, c'est-à-dire voilà, trois pointillés sur un bout de béton, avec les voitures qui respectent plus ou moins les marquages, avec des endroits où les pistes de vélo sont à contresens de la circulation, ce qui pose à chaque intersection toujours des problèmes de sécurité, parce qu'il y a toujours des gens qui oublient de tourner la tête, et aussi à des moments où les pistes cyclables passent sur les trottoirs, mettant en place une cohabitation très difficile entre piétons, cyclistes, trottinettes, etc. C'est-à-dire des problèmes qu'on rencontre un peu dans toutes les villes. C'est-à-dire que ce n'est pas propre à un problème de gestion de M. Piolle, mais M. Piolle n'a rien apporté de plus que ce qu'on rencontre dans les problèmes de partage de la voirie urbaine dans toutes les villes.
À cet égard, d'ailleurs, il y a vélo et vélo, hein, parce qu'il y a aussi les vélos électriques. Moi, je dis vélo nucléaire, et il faudra qu'on m'explique en quoi c'est moins polluant qu'une bagnole.
Oui, surtout que les batteries, généralement, ne durent pas très longtemps. Par exemple, les Vélib à Paris, écologiquement, c'est catastrophique. Les trottinettes, c'est encore pire, parce que les batteries ne sont rechargées après une faible utilisation, et leur durée de vie est extrêmement réduite. Tout ça produit en Chine par des bébés ouïghours. Voilà. Mais c'est écolo, c'est bien. Ensuite, M. Piolle avait fait une promesse, c'était supprimer la publicité de l'espace public. Et M. Piolle l'a fait. Il a supprimé la publicité de l'espace public. Sauf que, après un certain temps, le syndicat mixte des transports en commun a signé un contrat de concession de 12 ans afin que sur les 11 000 abribus, des publicités soient remises en place. Et on a une multiplication de dérogations. Par exemple, il y a 30 écrans numériques de grande taille qui viennent d'être installés. L'argument de M. Piolle, qui a quand même son mot à dire, hein, puisque c'est un syndicat mixte de transport en commun, donc la mairie est actionnaire avec la métropole, c'est que les recettes publicitaires sont indispensables à l'équilibre budgétaire des transports en commun. Et là, on voit nos amis verts pris dans des contradictions entre de grandes déclarations contre la pub, etc., et qui sont pris à la gorge par des obligations financières. M. Piolle a dénoncé à plusieurs reprises le fait que les dotations d'État avaient été réduites à des portions congrues, ce qui est vrai, et que d'un autre côté, la dette était déjà très forte à Grenoble, et que s'il ne voulait pas trop augmenter les impôts, eh bien, il était obligé de faire un certain nombre de concessions. Et donc là, on les voit, des 12 idéalistes, rattrapés par des réalités financières très compliquées. Alors, on va aller sur des choses un petit peu plus problématiques encore, hein, pour M. Piolle. Effectivement, il y a une partie du budget qui est participative, c'est-à-dire que les citoyens sont invités à fournir des projets, à demander des aménagements urbains, et qu'une partie du budget municipal est affectée à ces opérations. C'est une bonne idée, ça fonctionne plutôt bien, il y a des réalisations auxquelles les habitants sont très attachés, parce que c'est eux qui l'ont voulu, sauf que ça pose une limite qui n'est pas propre à Grenoble. Cette limite est une limite sociale. Qui participe au comité de quartier qui décide ce genre d'aménagement? Qui va assister aux réunions, siéger, etc.? Et là, on retrouve un problème qu'on retrouvait déjà avec la démocratie athénienne au 5e siècle, on s'aperçoit que les plus pauvres, les plus marginalisés, les moins éduqués, ne se sentent pas à l'aise et ne participent que marginalement à ce genre de réunions. Souvent, ces réunions sont accaparées par des gens issus de classes sociales élevées, qui savent parler, qui sont à l'aise dans des groupes. Et là, on voit toute la limite de ce genre d'ambition et de projet participatif. J'ai un collègue qui travaille sur Lisbonne, c'est pas propre à la France. Hein. À Lisbonne, pareil, il y avait ces grandes envies de budget participatif, et on s'aperçoit qu'in fine, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et on retombe toujours dans les mêmes travers. Plus problématique encore, M. Piolle a dénoncé la BNP Paribas. Cette banque avait une emprise urbaine et menait une spéculation immobilière à travers sa filière immobilière qui s'appelle Rice Partner, et qui prenait le contrôle d'un certain nombre d'endroits stratégiques à Grenoble pour construire des bâtiments. Sauf que Rice Partner a été cofondé par Éric Piolle en 2001, et sa femme en est toujours salariée à ce jour. Si bien que maintenant, quand on aperçoit toujours des bâtiments BNP Paribas qui apparaissent, il y a un soupçon de conflit d'intérêts qui se fait jour. On voit là toute l'ambivalence d'un bilan, tous les compromis entre le discours et la réalité. Alors, s'il y a un élément qui pose encore plus problème, c'est l'intérêt prononcé par M. Piolle pour les référendums et les droits de votation. On n'est pas loin de la 6. Et en Suisse, effectivement, ce droit de votation est censé être un élément de démocratie directe par lequel les citoyens peuvent s'exprimer. Il avait envisagé, lors de sa campagne de 2014, la mise en place de 3 grands référendums municipaux afin de donner la parole à la population de façon directe. Sauf qu'aucun de ces 3 débats n'a été mis en place. Et le seul qui a été organisé l'a été à propos de la démolition programmée de plus de 300 logements sociaux dans le quartier de l'Arlequin. Le scrutin a eu lieu à la seule initiative des habitants. La mairie n'avait pas voulu organiser ce référendum. Et en octobre 19, donc, 73% des votants avaient voté contre la démolition de ces 300 logements sociaux. Décision sur laquelle M. Piolle s'est assis. Et les 300 logements ont été détruits. Donc on voit qu'entre la volonté d'organiser des référendums, de redonner la parole au peuple, etc., en fait, quand on a un grand projet d'aménagement, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, eh bien on ne tient pas compte de l'avis des habitants. Tout cela s'est doublé d'un conflit très brutal avec les syndicats municipaux, puisque devant les restrictions budgétaires annoncé ces dernières années. On a fermé des postes dans la santé scolaire, dans les bibliothèques, et ça a été une véritable rupture avec le personnel. Conflit social, conflit sur la question de la gestion de la ville, conflit sur la gestion de l'espace, où les grands programmes de réhabilitation urbaine qui sont mis en place consistent seulement à déplacer les pauvres toujours plus loin de la ville. Et on assiste, à Grenoble comme ailleurs, à la gentrification de la ville, c'est-à-dire le réaménagement de quartiers populaires qui, certes, étaient dégradés, dans lesquels il y a des problèmes, mais sous couvert de réhabilitation, d'améliorer le cadre de vie des gens, en fait, on expulse les plus pauvres en lointaine périphérie et viennent s'installer dans des quartiers populaires, mais proches des centres-villes, des classes sociales plus favorisées. Ce n'est pas un problème lié à M. Piolle. Ce n'est pas un problème lié à Grenoble. C'est une question générale. C'est-à-dire que les grandes dynamiques que l'on voit dans toutes les métropoles européennes, ces problèmes, eh bien, les écologistes au pouvoir n'arrivent pas à les résoudre. Et non seulement n'arrivent pas à les résoudre, mais n'arrivent pas à s'y attaquer. C'est-à-dire qu'en fait, ils se fondent dans un moule qui est, à mon avis, la preuve du manque de colonne vertébrale idéologique de ces partis verts. C'est peut-être ça aussi qui explique leur succès électoral, si je voulais être méchant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de souplesse, voyez, en disant, on va faire des trucs verts, tout ça, les vélos, tout ça, c'est bien, on est tolérant, on fait des trucs, des festivités, un peu sympa, un peu d'innovation. Mais quand il s'agit de taper dans le lourd, dans le gras, la gestion de l'espace, le budget, etc., on voit que les pratiques de pouvoir ne changent guère de ce qu'elles avaient pu être dans le passé, sous d'autres municipalités, avec d'autres personnes.
Évidemment, c'est pas très surprenant si par écologie politique française, on entend ce qui est incarné par M. Jadot, c'est-à-dire une soi-disant écologie compatible avec l'économie de marché. Bon, ça, c'est de l'écologie en peau de lapin synthétique.
Synthétique, mon Dieu, quel
nom. En fait, l'écologie ne peut être qu'anticapitaliste, donc de gauche, donc de l'écologie en peau de lapin synthétique ou, comme dit André, à la sauver Willy.
Moi, je veux rebondir sur ce que vient de dire Cédric. On a écho de ce qu'il vient de dire dans l'article sur « Pourquoi la gauche perd ?» Parce qu'en fin de compte, de qui sont-ils représentatifs, les écologistes, indépendamment de leur discours, tout comme ça? Des classes moyennes, urbaines, citadines, youpies, young urban people, etc.
Éduqués,
à diplôme, etc. C'est ces gens-là qui votent essentiellement. Et c'est à ceux d'ailleurs que s'adressent la plupart du temps les écologistes. Si tu fais un sondage dans toute la population, toutes les fractions de la population, sur leur souci principal, il y a des gens qui vont te répondre, c'est la circulation à vélo ou à trottinette, etc., et la végétalisation des façades, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, c'est la sécurité sociale, la couverture sociale, la proximité de l'école, le bon marché des logements, le prix de l'électricité, etc. Ce sont deux catégories sociales. La première catégorie sociale, ils sont au pouvoir et on peut dire que les partis politiques, y compris ceux qui se réclament de la gauche, écologistes, socialistes, etc., s'adressent plutôt à eux. Et d'ailleurs, de préférence à eux, parce qu'ils savent qu'ils sont majoritaires et que ce sont les gens qui votent. Alors que les autres, délaissés, ne votent plus. Donc pourquoi s'adresser à des gens et s'occuper de gens qui ne votent plus, qui se sentent exclus et se sont exclus de la vie politique, de la vie sociale, des trucs comme ça. Et dans ces cas-là, bah, la gentrification, la repopulation des villes, tu vois, par une petite bourgeoisie ou des classes moyennes comme ça, c'est tout à fait logique. Disons, il y a un phénomène sociologique en même temps qu'un phénomène politique. Tout ça se complète, hein, et aboutit au résultat actuel. Et les écologistes sont les moins aptes à échapper à ce phénomène-là, parce qu'ils sont représentatifs de ces classes sociales pour lesquelles le sociétal est très plus important que le social, et pour lesquels les classes populaires sont éventuellement des classes dangereuses. Hein. Parce que tu sais, il y a aussi parmi les gens qui votent écologistes des gens qui craignent les banlieues, les violences des banlieues, etc. etc.
Moi, je connais, j'étais très surpris, là, dans mon entourage sociologique immédiat, j'ai plein de copines et de copains qui emmènent leurs enfants bien élevés en vélo plus ou moins atomique avant d'aller chercher leurs graines biodégradables à la COP, machin truc. Et j'avais été très surpris en rentrant plusieurs fois de reportages de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'avais été très surpris, en fait, que chez ces gens-là, au mieux, bah, les zadistes, c'est une espèce de révolte adolescente plus ou moins sympathique. Au mieux, hein. Parce que sinon, en fait, ça ne suscitait, disons, qu'une espèce de politesse très froide. Bah oui, avant d'être des suceurs de graines biologiques que vous allez chercher en vélo plus ou moins nucléaire, vous êtes avant tout des bourgeois, et les zadistes, ils vous posent un problème, c'est parce qu'ils squattent. Et même si les zadistes squattent des terres qui nous ont été volées à nous, le peuple, par Vinci, avec la complicité des gouvernements successifs, hein, même si les zadistes squattent une multinationale mafieuse, eh ben ils squattent quand même. Squatter, c'est très très grave, parce que c'est une infraction à la propriété privée, fût-elle cultivée en permaculture. Philippe.
En Allemagne, on avait souligné que depuis plusieurs années, les écolos gouvernaient dans certaines villes ou dans certains Länder avec la CDU, qui est le parti de droite, et actuellement, la coalition allemande, c'est le SPD, c'est le FDP, c'est-à-dire les libéraux, entendus au sens de ultra-libéraux, les gens contre les impôts, pour la privatisation, et les Grünen. Et le gouvernement actuel autrichien, c'est un gouvernement bien à droite, puisqu'il avait gouverné un moment avec le FPE, qui est un parti carrément d'extrême droite, et actuellement le FPE, bon, je ne sais plus s'il y est, mais il est toujours avec un parti qui correspondrait en France à la droite Pécresse et Ciotti, et les écologistes. Et par ailleurs, du point de vue de la politique étrangère, les écolos sont peut-être parmi les plus européistes et aussi le plus pour l'OTAN, puisque celui qui était le ministre des Affaires étrangères du gouvernement socialiste, je crois que c'était Schröder, c'était un écolo, et il a été pour l'intervention de l'armée allemande en Yougoslavie, lors des guerres de Yougoslavie. Donc, au point de vue de la politique générale, ce qui est très étonnant, c'est qu'il ne s'allie même pas à des partis sociaux-démocrates, il s'allie carrément à des partis de droite.
Les enjeux environnementaux, je ne vais pas faire un long exposé, on voit bien que c'est la grande question du 21e siècle. C'est un enjeu fondamental pour la survie même de l'espèce humaine. Il faut véritablement que l'élan qu'ont les écologistes dans l'opinion publique, il faut que ça s'articule avec un vrai questionnement social. On ne peut pas avoir une question sociale d'un côté et une question écologiste de l'autre. Il faut que les deux soient parfaitement imbriqués pour construire un vrai projet alternatif. Et donc là, en France, dans la gauche paire, c'est parce qu'il y a du mal à populariser cette articulation avec des gens qui ont plutôt une tradition effectivement sociale, avec un discours parfois assimilé à un discours un peu productiviste qui ne tient pas assez compte des questions écologiques. Et de l'autre côté, effectivement, du côté écolo, graines de courge bio, etc., en se foutant, voire en ayant peur des questions sociales. Et là, au niveau d'une municipalité, on peut s'entendre parce que les marges de manœuvre idéologiques ne sont pas très grandes, mais au niveau national, On ne peut pas s'entendre. C'est des gens qui sont incompatibles. D'où le désastre politique dans lequel se trouvent les gauches françaises au pluriel.
Pas que françaises, ils donnent l'exemple de Podemos en Espagne, de Die Linke en Allemagne, du Parti communiste ou du PDS en Italie, qui, tous les trois, ont eu à la fois des raisons objectives, comme la disparition du RSS, et puis d'autres raisons, comme la prééminence qu'ils ont mise sur les questions sociétales plutôt que sur les questions sociales.
Ouais, moi, je trouve que c'est compliqué ce que vous dites. Moi, je veux bien sauver les dauphins, mais pas faire de politique.
C'est ça le problème. C'est que on a beaucoup de jeunes gens qui sont très préoccupés par les questions écologiques. Et à juste titre, il y a une angoisse. Il y a une vraie angoisse écologique. Et cette vraie angoisse écologique, elle doit se doubler d'une vraie réflexion politique. C'est pas avec des gens de la CDU ou gens de droite. Voilà, on va faire des déchetteries. Donc c'est bien aujourd'hui. Mais le projet politique, c'est faire des déchetteries. Un mec de droite peut faire des déchetteries, quoi. Mais c'est pas ça qui sauvera la planète.
Vous connaissez la version alternative de la fable du colibri ? Non. Vous connaissez la version soi-disant originale racontée par l'abbé Pierre Rabhi ? Donc, il y a le feu à la forêt, tous les animaux se débinent, mais le petit colibri va chercher une petite goutte d'eau dans la rivière, n'écoutant que son courage, va au-dessus du brasier lâcher sa petite goutte d'eau qui, évidemment, s'évapore avant même de toucher le foyer de l'incendie. Les autres animaux lui disent « Ah, mais colibri, ça sert à rien ce que tu fais !» Et le colibri leur répond « Oui, mais je fais ma part !» Merveilleux. Bon, ce que Pierre Rabhi oubliait de raconter, c'est que dans la légende amérindienne originale, en fait, le colibri meurt d'épuisement dans le foyer. Bon, il avait oublié la fin. Il y a une autre manière de raconter l'histoire. Il y a le feu à la forêt et les animaux s'organisent. L'hippopotame fait un peu le taxi-brousse, porte sur son dos un vieux lapin fatigué, un loup essoufflé et une famille de hérissons qui court pas assez vite. Apercevant le colibri avec sa petite goutte d'eau, l'hippopotame s'adresse à lui. Il lui dit « Mais colibri, ça sert à rien ce que tu fais, t'es pas un canadair, ta goutte d'eau elle va rien éteindre du tout ». Et puis l'éléphant qui lui est en train de s'acharner à faire des pare-feux, il arrache des arbres pour empêcher que l'incendie continue à grignoter la forêt. L'éléphant va dans le sens de l'hippopotame et lui dit « Bah oui, colibri, rends-toi utile en fonction de tes compétences. Transporter des gouttes d'eau, ça sert à rien. Par contre, utilise ta vitesse pour aller prévenir les animaux de la forêt qui sont pas au courant qu'il y a le feu. Profite du fait que tu peux monter haut en altitude pour nous dire comment progresse le sinistre. Travaillons ensemble en fonction des compétences des uns et des autres. » Et là, le colibri leur répond « Ah, mais moi, messieurs, je ne fais pas de politique. »
Oui, mais bon. La gauche, traditionnellement, historiquement en France, était composée de deux mouvements essentiellement. Un mouvement ouvrier, plutôt communiste et révolutionnaire, ou en tout cas remettant en cause le capitalisme, le système en vigueur, et une gauche plus modérée, social-démocratie, représentative des classes moyennes, cultivées, ou simplement de petits fonctionnaires, de petits propriétaires, etc., qui se sentaient solidaires des gens les plus exploités, en quelque sorte, et constituaient un front de gauche. Enfin, c'est ça qu'on a appelé la gauche. Aujourd'hui, le mot est complètement démonétisé, mais c'était ça, la gauche. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus depuis 20-30 ans, etc. C'est-à-dire que cette gauche modérée a abandonné le terrain, si tu veux, du social, hein, pour adopter le sociétal, hein, l'écologie et tous les combats dont on parle, etc. Et ne se soucie pas du social, ou ne se soucie pas de l'alliance avec les gens les plus défavorisés, les gens dont les soucis sont des soucis matériels, des soucis de tous les jours, etc., de logement. Hein. Et cette rupture, c'est ça qui est dramatique, parce qu'on a là une caricature d'opposition qui n'est pas une opposition au système, puisqu'en fait ce sont des gens globalement conservateurs, ces classes urbaines cultivées qui veulent bien adhérer à un combat écologique, un combat sociétal, etc., tant que ça ne met pas en cause l'essentiel, car ce sont souvent des petits propriétaires aussi, tu comprends, qui ont un petit patrimoine, etc., ils se sentent plus solidaires des riches que des pauvres, on va dire les choses brutalement, si tu veux. Hein. Et donc, à la limite, on veut bien adhérer à un combat sur l'aménagement urbain, un truc comme ça, qui d'ailleurs ne concerne pas les pauvres, puisque maintenant, vu le prix des loyers, il suffit de regarder Paris hein, ou n'importe quelle grande métropole pour savoir que les pauvres, il n'y en a plus, on les chasse, il y a gentrification, on les éloigne, etc. Et là, il y a une rupture, il y a une ségrégation, il y a un mur social, si tu veux, fatal à la gauche. La gauche radicale, la gauche communiste ayant quasiment disparu, qui maintenant soutient le social, le vrai social, c'est-à-dire les revenus des gens, le travail, la protection sociale. Tu as adhésion par toute une partie de ces classes moyennes du programme libéral. Bon, alors voilà, rideau, quoi. Ensuite, après, si tu veux, les combats écologiques, si indispensables soient-ils, sont totalement impuissants. Comment veux-tu que des gens qui ne remettent pas en cause le système de l'économie de marché, de concurrence, de cupidité du grand capitalisme, comment veux-tu que ces gens-là puissent mener un combat vraiment efficace contre des grands groupes, contre de grands intérêts financiers qui les dépassent complètement, enfin, qui sont hyper puissants, ils sont au pouvoir, et ils sont confortés dans le pouvoir par l'impuissance de cette gauche qui s'est désarmée complètement. Elle s'est désarmée idéologiquement, etc. On leur demande maintenant à ces classes moyennes de se ressentir solidaires de gens pour lesquels ils sont étrangers. Enfin, ils sont étrangers les uns aux autres. Maintenant, quel rapport peut-il y avoir entre cette petite bourgeoisie, ces classes moyennes urbaines, si tu veux, relativement aisées, hein, et les banlieues complètement ruinés, etc., où règne la pauvreté, le délaissement social, la violence, etc. Il n'y en a pas. Ils se craignent même mutuellement. Enfin, d'abord, d'un côté, les pauvres qui s'abstiennent méprisent ces petits bourgeois. Et quant aux petits bourgeois, ils en ont peur. Bon, tu ne fais pas une politique ni urbaine, ni nationale, ni internationale dans ces conditions-là. Et c'est ce qui se passe mondialement. Hein. L'article du Monde diplomatique est très, très significatif à cet égard. Les écologistes là-dedans, bien, il faudrait bien effectivement qu'ils se repositionnent. Mais ça, c'est très difficile. Il faut changer de nature.
Sans jeu de mots.
C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain.
Philippe. Marx avait fait la synthèse de la philosophie allemande, de l'économie anglaise et du socialisme français. Il faudrait qu'il y ait un penseur ou un collectif de penseurs qui refasse une synthèse entre, d'une part, la protection de l'environnement, l'écologie au sens propre, et puis le social économique, mais qui soit pas quelque chose qui soit simplement accolé de façon artificielle, mais qui soit quelque chose de façon articulée, c'est-à-dire de telle façon que l'écologique entraîne nécessairement le social et le social l'écologique, c'est-à-dire quelque chose qui soit véritablement une synthèse où l'un répond à l'autre. On est encore à l'attendre. Hein.
Non, Philippe, ce que tu dis existe déjà et a été pondu en 2017. Ça s'appelle le programme de la France insoumise, dont la moitié est consacrée à l'écologie, aux fronts de mer, aux usines marémotrices, etc. Voilà. Et d'ailleurs, Jadot et ses soi-disant verts ne s'y sont pas trompés, puisqu'à la dernière présidentielle, ils ont juste fait un copier-coller du programme de la France insoumise pour dire que c'était le leur.
Mais ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans le programme de la France insoumise qui a une vraie pertinence écologique au-delà du discours social. Mais on voit que ça prend mal. Ça n'arrive pas à s'ancrer dans le paysage politique et on a entre 10 et 20% de gens qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle, alors qu'il y a une vraie interrogation de fond sur ces questions écologiques. Donc je pense que les Verts, non seulement ne servent pas à grand-chose, mais en plus sont nuisibles.
Très clairement, ils ont servi à faire perdre la France insoumise avec l'autre. Hamon, oui, bon. Donc les voix qu'on manquait à la France insoumise en 2017, elles étaient là, entre Hamon et les soi-disant écolos. Voilà, merci les Verts, machin. Maintenant, de toute façon, Mélenchon et la France insoumise, ils sont carbonisés par les médias, carbonisés par les gens, parce que vous savez quoi, c'est vraiment pas de bol. Sur 7 milliards d'êtres humains, Mélenchon, c'est le seul qui a un égo. Pas de bol pour la France insoumise quand même. Hein. Et voilà les amis, c'est ici que s'achève cette spéciale Diplo, à éventuellement réécouter sur notre site
polémique, c'est lavoixoff.com où il est aussi possible de s'abonner au podcast. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.